Boomerang avec une légende du rock ce matin, Neil Young, c'est parti. Celle à laquelle je pense, c'est une grange abandonnée dans un état de délabrement avancé. Il y a plusieurs décennies qu'elle ne sert plus, les animaux l'ont désertée et puis petit à petit les outils qu'on y entreposait, c'est une bâtisse fantôme, le vestige d'une époque qu'on ne veut pas oublier, celle de l'agriculture familiale qu'on a peu à peu remplacée. Ça fait des années, mais à l'intérieur, il y a encore l'odeur du grain, vous savez. C'est ça, une grange. C'est le lieu à l'origine où l'on entreposait le grain. C'est la mémoire du pain. Mais il y a aussi l'odeur de la paille et du foin qui a séché tout l'été. Aujourd'hui, on fait des bougies au parfum de foin coupé. C'est vous dire si ça nous manque, les granges, même si on n'a aucun souvenir d'en avoir visité ou d'y avoir habité. Parce que cette grange dont je vous parle, qui est aujourd'hui abandonnée, elle a été dans le passé un signe d'abondance. Ça se voit pas forcément, mais on l'a construite il y a peut-être 2 siècles avec l'augmentation des cheptels et des récoltes. C'était une preuve de richesse. Et puis tout a changé. La façon de faire, d'élever, de produire a changé. Si bien que ce grand bâtiment en bois, on a fini par le laisser de côté. On espère que les nouveaux ruraux vont s'y intéresser pour la réhabiliter, pour la retaper, qui sait. Pour l'instant, c'est le refuge des adolescents qui y échangent des baisers. C'est un souvenir qu'on aurait pu détruire, mais qu'on a gardé. C'est une sorte de patrimoine périmé. C'est mon refuge préféré.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui aime tellement les granges qu'il y enregistre des disques. Sa guitare, son harmonica, sa voix haute, ses balades, sa fougue ont fait de lui une légende du rock. Barn, son 50-et-quelques-unième album, sort aujourd'hui. C'est limpide, mélodieux, très actuel. Bonjour Neil Young.
Hello, how are you?
Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Avant toute chose, pour l'enfant de la campagne que vous avez été, quel lieu est-ce que c'est une grange?
J'aime les granges parce que je me suis toujours amusé dans les granges, même quand je suis tombé du haut d'une grange quand j'étais petit. Oui, les granges sont très importantes pour moi parce que le son dans une grange, c'est génial.
C'est la question que j'allais vous poser pour le musicien. Quel genre de studio est-ce que c'est une grange ?
Eh bien, cette grange-là que nous avons reconstruite, c'était une vieille grange des années 1800. Et elle s'effondrait, s'enfonçait dans la terre. Elle était esquintée de tous les côtés, le toit était défoncé. Et nous avons reconstruit le tout à l'identique parce que nous avions des dessins et des photos. Nous l'avons donc remonté exactement comme elle était, au même endroit, avec la même essence de bois. Et nous avons utilisé une partie du bois d'origine. Elle est en pin ponderosa. C'est un pin énorme, haut, rond, très long. Toutes les surfaces sont courbées parce qu'elles sont empilées les unes sur les autres, ce qui donne un enchevêtrement de courbes et c'est parfait pour le son.
Je pense aussi à l'enregistrement de votre album Harvest. Quels souvenirs vous reviennent tout de suite en tête?
On a enregistré une partie de Harvest dans la grange aussi. Pas tout, juste 3 morceaux. Mais c'était une sorte de grange traditionnelle nord-américaine construite par les fermiers pour les animaux et tout, en planches. Et c'est là qu'on a enregistré.
Neil Young, ce disque qui est devenu complètement culte, hein, dans quelles conditions est-ce que vous l'avez enregistré en fait? Il ressemblait à quoi ce studio improvisé dans cette grange à cette époque, il y a plus d'un demi-siècle?
Comme je l'ai dit, on a enregistré dans une grange avec le camion son à l'extérieur, le magnétophone multipiste et de bons microphones, très simple.
Ça fait plus de 60 ans que vous faites de la musique et que vous enregistrez des disques. Au fond, comment ça a commencé toute cette histoire?
Je pense qu'on a enregistré notre premier disque à Winnipeg, à Manitoba, au Canada, quand je jouais avec mon groupe The Squires en 1963. On était allé à une station de radio, on a passé une audition, ils nous ont acceptés, et on est entré dans le studio, on a répété une fois, et la fois suivante, on a enregistré.
Mais si on revient aux origines, je pense tout de suite à un titre de Barn qui s'appelle Heading West, dans lequel vous parlez du rôle qu'a joué votre mère dans le lancement de votre carrière. En quoi, dès vos débuts, est-ce qu'elle vous a soutenu, concrètement?
Eh bien, à mes tout débuts, elle m'a beaucoup soutenu. Elle a mis à disposition le salon de notre maison pour que le groupe puisse y répéter. Nous habitions dans ce qu'on appelle un duplex. Donc on vivait à l'étage et on devait porter nos affaires dans la chambre du haut. Et on répétait. Elle m'a toujours aidé. Elle m'a toujours laissé utiliser sa voiture pour aller au concert. Très serviable, d'un grand soutien. Et c'est elle qui m'a acheté ma première guitare électrique.
Ah, Quelle femme est-ce qu'elle était?
Ah, très, très drôle. Très drôle, très intelligente. Un être humain merveilleux.
Est-ce qu'elle avait un cœur d'or? A heart of gold?
Ah ouais, sans aucun doute.
Qu'est-ce que c'est, un cœur d'or pour vous, Neil Young?
Eh ben, ça veut simplement dire quelqu'un qui a une âme gentille, quelqu'un de bon, d'aimant, vous savez, pas trop égoïste.
Juste une personne ouverte. Et dans quelle mesure diriez-vous qu'il faut avoir du cœur pour écrire des chansons, pour faire de la musique?
Je ne pense pas que ça soit nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de musique faite de colère. Non, on n'a pas besoin d'avoir un cœur d'or pour faire de la musique.
Mais le vôtre, il est en or?
Je ne sais pas, il faut demander à ma femme.
Neil Young, c'est aussi ça. Et puis c'est ça aussi. C'est celle-là aussi avec le groupe Crazy Horse dont vous vous êtes entouré pour votre dernier disque, Barn. Et puis celle-ci aussi. Votre nouveau disque Barn, vous dites volontiers qu'il parle de notre époque, du monde dans lequel on vit, et là je pense tout particulièrement à un titre qui s'appelle Human Race. Pourquoi le genre humain vous met-il tant en colère?
Non, c'est pas que je sois en colère, bien que j'ai l'air en colère dans ce morceau. C'est parce que nous ne sommes pas unis, nous sommes égoïstes, nous ne cherchons pas le bien commun, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, beaucoup d'entre nous en tout cas. Au point que nos réponses à nos problèmes est gravement entachée.
Et quel sens est-ce que ça a pour vous de dire ça dans une chanson?
Eh bien, c'est très important pour moi parce que mes petits-enfants me sont très importants, tout comme vos petits-enfants seront très importants, et aussi les petits-enfants de tout le monde. Donc, il faut commencer à penser à eux et pas à nous. Et que nous soyons de droite ou de gauche, on doit commencer à penser à la planète sur laquelle nous vivons. Et il faut la laisser telle qu'elle était quand nous sommes nés. On a déjà causé beaucoup de dégâts au cours de nos vies. Moi, je suis né il y a 76 ans. J'ai vu une quantité énorme de dégâts causés à notre Terre. Nous ne savions pas ce que nous faisions, mais maintenant, nous savons ce que nous faisons. Et on a du mal à nous rassembler pour nous en occuper. C'est une situation très triste, décourageante. Les gens sont plus préoccupés par leurs propres opinions que par le bien-être de leurs petits-enfants et des petits-enfants de leurs petits-enfants. Et donc, la race humaine, aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, eh bien, c'est eux qui sont à blâmer pour ce qui arrivera demain. Il faut arrêter de se battre et s'organiser pour une réaction, une réponse à nos problèmes, comme les pandémies et le réchauffement climatique.
Évidemment, c'est passionnant de vous entendre porter ce message, parce que vous êtes, Neil Young, l'un des grands représentants de la chanson contestataire de Ohio, devenu un hymne contre la guerre du Vietnam, jusqu'à Already Great, il y a 4 ans, contre la politique menée par Donald Trump. Au fond, je me suis demandé que peut une chanson pour vous, quel est son pouvoir?
Le pouvoir d'une chanson est à la mesure de celui qui l'écoute, des gens qui l'entendent. Donc, si quelqu'un est ouvert au changement, ouvert à l'idée qu'il a peut-être pas raison, qu'il doit reconsidérer la situation pour le bien de ses enfants et des enfants de ses enfants, il doit s'arrêter et réexaminer ce que nous faisons. Nous devons tous le faire. Je montre personne du doigt. C'est vrai pour nous tous.
Est-ce que vous avez déjà été sauvé par une chanson, vous, par la musique ?
Je ne pense pas. En dehors du fait que ça a changé ma vie, ça m'a donné quelque chose à faire de ma vie. J'ai pu écrire des chansons, faire des trucs musicalement, et d'autres choses que j'ai appris à faire pendant que je faisais ça. J'ai une très bonne vie. Elle a été très créative, et j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Je suis donc heureux de ce que la musique a fait pour moi. Mais ce n'est pas seulement une chanson qui m'a rendu différent ou qui m'a touché. C'est le fait que la musique elle-même m'a donné une raison d'être.
Alors précisément, jouer de la musique, composer, écrire, quelles épreuves est-ce que ça vous a permis de surmonter ?
La musique, dans ma vie, m'a aidé à vivre et à partager, à faire l'expérience de la terre, l'expérience de mes semblables, d'une autre manière, en me permettant de réfléchir sur eux, réfléchir sur ce qui se passe. Elle me donne un exutoire. Et lorsque je commence à écrire sur ce que je ressens, comme je l'ai fait dans cette chanson, Human Race, je ne fais qu'exprimer mes sentiments. Et être capable d'exprimer ses sentiments, c'est extrêmement important pour les êtres humains.
Vous racontez notamment que la musique vous a aidé à surmonter la séparation de vos parents quand vous étiez petit. Est-ce que vous saviez déjà à l'époque que vous vouliez être musicien ?
Ça commençait juste quand mes parents se sont séparés. Je pense que j'avais qu'un ukulélé. Mon père m'a joué une chanson sur le ukulélé et me l'a chanté quand j'étais très très jeune, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Et puis à peu près au même moment, quand mon père et ma mère se sont séparés, j'avais un autre instrument, une sorte de petite guitare funky, et je voulais jouer. Je voulais jouer dans un groupe, monter un groupe, et ma maman m'a aidé en m'achetant une guitare électrique.
Mais il paraît que petit, votre rêve à vous, c'était de devenir fermier. On en revient à notre amour partagé pour les granges. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous attirait dans cette profession ?
Eh ben, la terre, les animaux. J'aime le plein air, les animaux, et les gens qui travaillent dans les champs. Les paysans qui avaient un but dans leur vie, une jolie maison au milieu d'un champ, quelque part. La nature a été bonne pour moi à l'époque.
Au fond, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Je pense que j'ai oublié avoir voulu devenir fermier quand j'avais 5 ou 6 ans. Quand je pensais que peut-être être fermier, ce serait génial, et ça l'aurait été. Mais la musique est venue, quelque chose de très très fort, elle a commencé à grandir.
Et puis il y a eu la découverte d'Elvis quand même. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez entendu pour la toute première fois ? Quel choc est-ce que ça a été ?
C'était génial d'entendre du rock et d'entendre cette énergie venant de la musique. C'était vers 1955. Je vivais au Canada, dans un endroit appelé Pickering, dans l'Ontario. Je pense quand Elvis est arrivé sur la scène. Et il était très impressionnant. Plus tard, lorsque j'ai commencé à jouer de la guitare, à monter mon groupe et à jouer de la musique instrumentale, comme genre les Shadows ou les Ventures ou d'autres trucs du même genre, je faisais que jouer de la guitare. Et puis j'ai entendu Bob Dylan, et j'ai entendu ce qu'il disait dans ses chansons. Et ça a été une énorme influence, d'être aussi libre, d'être aussi poétique. Ça m'a beaucoup touché, ça.
Mais si on revient à Elvis, qu'est-ce que vous lui devez, au fond ? Qu'est-ce que votre musique lui doit ?
Eh ben, je lui dirais simplement merci. Belle sortie de scène, Elvis.
Quel guitariste est-ce qu'il était ?
Ah, il était vraiment bien. Vous savez, il jouait très simplement, mais très bien, sans fioritures. Quand on chante comme ça et qu'on a ce rythme, on joue plutôt bien. C'est peut-être pas un grand soliste, mais on a un bon feeling.
Mais c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui fait un bon guitariste, au fond, pour vous, Neil Young ?
C'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait, qui est stimulé par sa propre musique et qui joue pour lui-même.
Vous jouez toujours pour vous, vous ?
La plupart du temps, à moins que j'oublie, j'oublie et je suis distrait par autre chose, mais j'essaie immédiatement de revenir là où j'étais. Donc, je ne joue pas pour quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune raison de jouer pour quelqu'un d'autre. Il faut jouer pour soi-même et tout se passera bien pour tout le monde.
On va en reparler, évidemment, de guitare, mais aussi de mélodie, d'écriture et de son. Juste après Heading West, premier extrait de votre nouvel album Barn, avec les Crazy Horse qui sort aujourd'hui. Vous êtes sur France Inter avec Neil Young. Vous écoutez Boomerang, évidemment. Ah bon, on est quelque part entre le motard en colère, grand-mère feuillage et le druide. Le regard fidèle mais un brin défiant, le cheveu Into the Wild et la lèvre siffleuse, le musicien Neil Young, invité de Boomerang ce matin pour la sortie de son dernier album Barn et pour parler surtout, quand même, de ce que c'est que de faire de la musique. Comment est-ce que vous avez appris, vous, à jouer de la guitare? Parce que c'est comme ça que tout commence.
Bah, j'ai juste pratiqué, j'en ai eu une, j'ai continué à jouer. J'avais une Harmony. Ma guitare était une Harmony Monterey ou une Sovereign, quelque chose comme ça. Et c'était juste une petite guitare acoustique en bois. Et j'ai appris les accords, un par un. Et j'ai juste commencé à jouer dans ma chambre. J'ai continué à pratiquer.
Alors, il faut raconter, il se trouve que tout petit, vous avez attrapé la polio et que vous avez dû ensuite réapprendre l'usage de votre main. Cette maladie, quelle incidence est-ce qu'elle a eue sur votre jeu de guitare?
Eh ben, c'est pas simplement ma main. J'ai vraiment dû réapprendre à utiliser mon corps. J'ai dû réapprendre à marcher quand j'avais 6 ans. La polio, a fait de la moitié de mon corps l'ombre de l'autre moitié. Et donc, je ne sentais pas un côté comme je sens l'autre. Mon côté droit est assez solide. Mon côté gauche est juste un peu sombre.
Et vous pensez que ça a eu une incidence sur votre jeu de guitare, sur votre art ?
Ah oui, vraiment. Je pense que la plupart de mes expressions sortent de ma main droite. Et je ne peux pas jouer comme des gars comme Eddie Van Halen ou quelqu'un comme ça. Je ne joue pas si vite. Ma main gauche ne bouge pas très vite. Mais c'est juste ma façon d'être. Je m'en fiche un peu.
Mais c'est intéressant quand même, de cette prise en main de la guitare, composer des chansons, c'est venu naturellement.
J'ai toujours fait ça, depuis le tout début. J'ai créé des chansons dont je me souviens quand j'étais jeune.
De quoi elles parlaient, ces chansons ?
Des trucs sur ma vie, des choses qui se passent, des chansons sur la vie, vous savez, des chansons sur des trucs.
Comment naît une chanson, Neil, pour vous ?
Mais il n'y a pas de règle. Parfois, ça commence par les paroles, parfois, ça commence par la mélodie, parfois, les deux arrivent en même temps, parfois, ça arrive très vite, parfois, ça prend des mois. Des années. Il n'y a pas de règle. Ça reste avec vous et vous la portez jusqu'à ce qu'elle soit terminée.
A Heart of Gold.
J'ai probablement écrit ça dans une chambre d'hôtel au début des années 70, peut-être en 71. Et ça a dû me prendre quelques minutes.
Dans quelle mesure une chanson n'est-elle aussi de l'improvisation, particulièrement lorsque vous travaillez avec un groupe comme Crazy Horse, avec lequel vous collaborez par intermittence depuis plus de 50 ans?
J'improvise toujours facilement avec le Crazy Horse, parce qu'ils sont très cosmiques. C'est un esprit libre, des sentiments, de la créativité. Rien ne retient ce cheval.
C'est intéressant, j'imagine qu'il faut quand même partir d'une base, d'une structure qui permet aux musiciens de proposer, de se sentir libre.
Oui, la chanson doit avoir sa structure. Mais certaines structures sont très simples. Certaines structures appellent simplement à une répétition. Donc il y a quelque chose que vous jouez encore, puis encore une fois. Et selon ce que je fais par-dessus ça, ça va dans différentes directions. La règle est que si moi, je ne reprends pas, eh bien c'est la même chose qui se répète et encore. Mais quand ça se termine, si moi je ne recommence pas à le jouer à nouveau, eh ben on ne le joue pas. On reste sur le dernier accord jusqu'à ce que je recommence à jouer. Parce que c'est le même accord qu'au début. Il n'y a aucun moyen de le manquer. On doit juste se rappeler de ne pas y aller tout seul. Il faut m'attendre.
En fait, il y a toujours un cadre. Faire de la musique, quelle liberté est-ce que ça vous a apporté, Neil Young? Vous qui faisiez paraître d'ailleurs en 1989 un album qui s'appelait Freedom, justement.
J'ai l'impression que lorsque je joue de la musique, c'est un moment où les seules règles qui s'appliquent portent sur la structure de la chanson. Et quand vous l'avez jouée, tout le reste est grand ouvert. On ouvre simplement son esprit et on joue. Ensuite, si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Si la chanson a une structure qui me permet de jammer pendant un certain temps, puis de revenir au morceau, c'est une chose très simple que le groupe comprend. C'est très facile. Une chanson a sa structure, c'est juste un ensemble de règles très simples.
En fait, à vous entendre, ça vous donne aussi la liberté d'expérimenter tout le temps.
Ouais, il faut avoir ça.
Quand vous avez rencontré les membres du groupe Crazy Horse et que vous avez commencé à travailler avec eux, par exemple, qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'expérimenter d'un point de vue musical, d'un point de vue sonore ?
Tout de suite, dès qu'on a commencé, on l'a fait. C'était naturel parce que ça avait à voir avec l'âme des gens. Donc quand ce groupe de personnes s'est réuni, quelque chose s'est produit. Vous savez, quand vous avez des copains au lycée ou à l'école, ils sont copains à l'école et peut-être qu'il y a aussi ces deux, trois filles, vous les connaissez. Mais quand ils sont ensemble, quelque chose de différent se passe. Ce sont des bons copains, ils se connaissent. Alors ils font des choses sans avoir besoin de se parler. Des choses se produisent. Nos âmes sont connectées de telle manière que s'il y a une chanson et une façon de jouer une chanson, il peut y avoir une règle, il peut ne pas y avoir de règle, il peut juste y avoir une grande structure. C'est tout ce dont on a besoin. Et plus vous chantez, plus vous jouez, plus vous réalisez de quoi il s'agit, et plus vous la jouez.
Et la voix, tiens, quel instrument est-ce que c'est pour vous d'ailleurs, la voix, Neil ?
Indisciplinée, c'est une voix très indisciplinée. Elle va là où elle veut, elle a très peu à voir avec moi.
Qu'est-ce qu'elle raconte, votre voix, à votre avis ?
Elle est à la recherche d'une note. Un grand compositeur, Leonard Bernstein, a dit « Je chante pas des notes, j'entoure des notes ». Ça m'a donné une excuse pour continuer.
C'est beau ça, vous comprenez ce qu'il veut dire par là ?
Ah ouais, en quelque sorte, parce que je sais que parfois je suis au-dessus de la note, parfois je suis en dessous, parfois je suis juste dessus, mais pas pour longtemps. Ça change tout le temps. Donc, plutôt que de chanter juste la mélodie telle quelle, je ne peux pas vraiment bien le faire.
Précisément, comment est-ce que vous l'avez vu évoluer avec les années, avec le temps, votre voix ?
Je ne sais pas. J'ai vieilli, ma voix a changé.
Le temps, au fond, ça représente quoi pour vous ?
Le temps, j'espère avoir beaucoup de temps. J'ai beaucoup à faire. J'aimerais avoir un peu plus de temps, s'il vous plaît.
C'est bouleversant ce que vous dites, et j'ai l'impression que vous y pensez tout le temps, autant... Au temps qui passe, au temps qui reste, au temps après vous. Je pense évidemment à votre site internet qui regroupe une bonne partie de vos archives musicales, notamment. Au fond, qu'est-ce que vous avez l'impression de semer derrière vous ? Quel héritage ?
Oh, je sais pas. J'essaie juste de garder une trace de ce que je fais et je veux juste organiser ma musique pour qu'elle reste là. Si quelqu'un est intéressé, il peut l'écouter, trouver tout, trouver les originaux de toutes les chansons que les gens aiment. Et je peux revenir en arrière et écouter comment ça sonnait au studio pour la première fois que je l'ai joué. C'est des choses auxquelles on n'aurait pas normalement accès, mais les archives donne à la musique une occasion d'avoir une histoire qui peut être explorée par les auditeurs.
Et là, je pense tout de suite à Old Man, cette chanson sur l'album Harvest où le jeune homme de 20 ans que vous étiez chantait à l'homme que vous pourriez être aujourd'hui « Give me things that don't get lost ». Dis-moi les choses qui ne se perdent jamais. Je me suis demandé qu'est-ce qui ne se perd pas pour vous ? Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui dure ?
Je pense que le sentiment de l'amour, le fait d'apprécier le don de la vie, et mon souci de vivre pleinement la vie et de protéger la vie et les autres êtres vivants, notre mode de vie, nos enfants. C'est ce que nous voulons vraiment pas perdre.
Et le son, Neil Young, le son qui est si important pour vous, la qualité du son, est-ce que ça reste ?
Ouais, ça va rester. Mais la qualité du son est en train de changer. À la base, le gros problème avec la révolution numérique, c'est un problème très simple, mais il est au cœur de ce qu'est la musique. Et la musique numérique peut être contrôlée en choisissant la résolution de la musique numérique. Et avoir une musique numérique qui est de basse résolution, comme un MP3, où le même morceau peut être en haute résolution. Et cette chanson-là pourrait être aussi en analogique et se trouver sur un disque vinyle, si elle était enregistrée sur bande magnétique. Mais le son numérique, il est utilisé par le business au lieu d'être de l'art. Le son est enregistré au niveau le plus élevé. Et puis, il y a quelqu'un dans un bureau qui décide du niveau que les gens pourront entendre et à quel prix. Et ce n'est qu'une décomposition en petits bits. Mais avec la musique analogique, la musique était capturée comme un reflet. C'était donc un univers de possibilités, un miroir. Un lac avec une montagne qui s'y reflète, donc un grand lac, une grande montagne, et à l'envers, dans le lac qui est calme, une réplique parfaite de la montagne. Mais dans la musique numérique, il n'y a pas ça. Quand vous regardez le reflet, ben il n'y a pas de reflet. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ressemble à ce que c'était, mais vous ne ressentez pas la même chose. Et si vous commencez à vous rapprocher de plus en plus, vous vous rendez compte que c'est un tas de petits carrés. Aujourd'hui, la plus haute résolution numérique est constituée de beaucoup de petits carrés. Chaque pixel est d'une seule couleur, au lieu d'être un univers de couleurs.
La beauté de cette image, Neil, en fait, ce que vous énoncez, c'est toute la différence entre une musique qui se consomme et une musique qui s'écoute.
Écoutez, vous pouvez entendre la musique que vous consommez, vous l'écoutez, mais vous n'entendez pas tout. Vous entendez ce qu'elle simule. La musique numérique est une simulation. Il n'y a pas de musique. C'est juste une série de 1 et de 0 et de pixels carrés. Ça ressemble à de la musique. Dans le temps, tout était identique à la base. Si vous vendiez une version bon marché, une cassette, c'était toujours au départ un master. Tout comme le vinyle était issu d'un master. La cassette était issue d'un même master. Ça commençait par la même chose. Avec la musique numérique, dès le début, elle est découpée en petits morceaux et dégradée. pour que les gens payent moins. Ils payent moins d'argent et obtiennent moins de musique. Mais ça sonne toujours comme une chanson.
Ça vous met dans quel état, vous ?
Ah, le vrai truc me manque. Mais on peut toujours l'avoir. On utilise toujours des anciens bidules. Quand on a enregistré Barn, on avait un camion. Le camion est un camion son numérique, mais il avait été, il y a quelque temps, un camion son analogique. Donc, on a retiré tous les appareils numériques et remis les analogiques pour notre enregistrement. Pour l'instant, nous sommes en mesure de revenir en arrière, mais bientôt, ça ne le sera plus, sauf pour les fans et les personnes qui connaissent vraiment la différence. Et ce ne sont pas les businessmen. Ce ne sont pas ceux qui décident ce que vous écouterez.
Merci infiniment, Neil Young, pour cet entretien et merci à votre interprète ce matin, le Forever Young, Michel Zlotowski. Je rappelle que Barn, votre nouvel album, sort aujourd'hui. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini et David Leprince à la réalisation, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Démé, Jérôme Imbert et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Thank you very much. Enjoy your day.
Bye bye.
And the Damage Done, Neil Young sur France Inter, l'Instant M. Sonia De Villers, ça va Sonia?
Ah oui, Neil Young, mon amour. Allez, salut Augustin, à lundi.